Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Accouchement dans la douleur du plan de relance économique européen, les négociations s'éternisent à Bruxelles sous le signe d'un strabisme décidément divergent entre les pays prêts ou pas à jouer la carte de la solidarité avec le sud de l'Europe. L'heure est au marchandage, nous rejoindrons Pierre Benazet à Bruxelles. À partir d'aujourd'hui, tous les lieux publics clos ne sont accessibles qu'avec un masque sur le visage, une extension du champ de l'obligation rendue nécessaire par les signes de reprise de la pandémie. Olivier Véran a précisé ce contexte sanitaire ce matin, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous irons à Tours pour voir comment s'applique cette obligation dans le monde des grandes surfaces. Et Hakim Kasmi évoquera quant à lui les différentes hypothèses de mesures sanitaires en perspective pour la prochaine rentrée scolaire. Nous ferons le point également dans ce journal sur l'enquête autour de l'incendie de la cathédrale de Nantes après la remise en liberté hier soir du principal suspect. L'Égypte dans le collimateur de l'organisation Human Rights Watch pour la situation déplorable dans ces prisons en cause, le nombre de détenus tués par l'épidémie de coronavirus. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur le lancement réussi de la première sonde spatiale initiée par un pays arabe, en l'occurrence la Fédération des Émirats Arabes Unis. Le sommet européen de Bruxelles joue donc les prolongations. Il devait durer 2 jours, nous en sommes au 4e. Les discussions qui ont duré toute la nuit reprendront d'ailleurs cet après-midi. Le plan de relance économique oppose toujours 2 visions qui ont bien du mal à se rapprocher entre une option portée par la France et l'Allemagne plus solidaire en faveur des pays du Sud, les plus durement touchés, vous le savez, par la crise sanitaire, et une option moins généreuse portée par les pays dits frugaux qui souhaitent une baisse de la part des subventions. Il y aurait eu cette nuit une amorce de compromis trouvé entre les uns et les autres. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Parmi les pays qui rechignent à ouvrir en grand les poches communes, les Pays-Bas visiblement apparaissent comme les moins conciliants.
Oui, effectivement, le Premier ministre Mark Rutte, qui a été propulsé à la tête des pays frugaux depuis plusieurs mois, représente un petit peu cette vision de l'Europe. On s'écharpe aujourd'hui à Bruxelles sur le plan de relance concocté par le couple franco-allemand, mais le sommet a un autre volet, le budget de l'Union européenne sur 7 ans. Et cette négociation-là, déjà en route depuis longtemps, avait vu une empoignade en février. Et à ce moment-là, les 4 frugaux s'étaient toujours déplacés comme un seul homme de réunion en réunion, avec toujours Mark Rutte en figure de proue. Et c'était déjà ce groupe de pays-là qui avait fait capoter ce sommet. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a averti hier Mark Rutte qu'il rentrerait peut-être aux Pays-Bas en héros, mais que ça ne durerait pas plus de quelques jours avant que les Bataves s'aperçoivent qu'il avait mis à mal par son intransigeance le projet européen. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a lui accusé son homologue néerlandais de le haïr personnellement. Mais Mark Rutte est en partie prisonnier des engagements d'économie pris devant son Parlement avant son départ et des accords de coalition avec des partis, pour certains nettement plus marqués à droite que son parti libéral à lui. Il bénéficie en revanche de la présence dans la coalition des centristes de D66, un parti pour qui il n'y aura pas de reprise économique néerlandaise sans reprise économique européenne. Il reste que Mark Rutte a été obligé de se mettre sur le devant de la scène depuis le départ de l'Union européenne du Royaume-Uni, un Royaume-Uni dont les projets européens ont toujours coïncidé avec ceux des Pays-Bas qui pouvaient jusqu'ici donc avancer cachés. Et pour Mark Rutte, le plan de relance financé par des emprunts de la Commission européenne sur les marchés ouvre la voie à une mutualisation de la à laquelle les Pays-Bas sont extrêmement défavorables.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et les discussions doivent donc reprendre cet après-midi à 16h. Nouvelle étape aujourd'hui pour ce qui concerne le port du masque en France. Jusqu'à maintenant, son usage était obligatoire dans les transports en commun. Eh bien, c'est aussi le cas désormais dans les boutiques, les centres commerciaux, les banques, les marchés couverts, entre autres. Et si vous ne respectez pas cette consigne, eh bien, vous risquez une amende de 135 euros. Ce durcissement intervient en fait plus tôt que la date initialement prévue. Ce devait être le 1er août, en raison de signes inquiétants de reprise épidémique sur lesquels Margot Delpierre, le ministre de la Santé, est revenu ce matin.
Oui, Olivier Véran l'a reconnu chez nos confrères de France Info. Nous sommes, dit-il, très loin de la vague épidémique de Covid-19, mais nous constatons une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète.
L'objet n'est pas d'inquiéter outre mesure, l'objet est d'expliquer aux Français que d'abord nous traquons le virus, que deux nous le surveillons, que nous allons chercher partout où il est, en augmentant les campagnes de tests avec des drive tests, avec des envois de bons de l'assurance maladie pour que les Français puissent se faire tester sans besoin d'aller chercher leur médecin, que j'ai motivé, le mot est très faible, l'ensemble des laboratoires que je remercie par ailleurs pour leur mobilisation, mais pour m'assurer que même au cœur de l'été, ils continueront d'augmenter leur capacité de tests et que surtout la vigilance citoyenne est importante.
Olivier Véran qui déplore un relâchement des Français concernant les gestes barrières parce qu'ils sont usés de la crise épidémique, parce que c'est les vacances, parce qu'ils ont envie de retrouver une forme d'habitude sociale et d'habitude de vie, a expliqué le ministre. Il a rappelé qu'il existait près de 500 clusters en France identifiés depuis le mois de mai, notamment en Mayenne, en Bretagne et dans le Grand Est, souvent dans des milieux professionnels particuliers comme les abattoirs ou à cause de réunions de famille. Si la reprise de l'épidémie s'intensifier, le gouvernement pourrait activer, selon le niveau de gravité, l'un des quatre scénarios qu'il envisage, comme par exemple un reconfinement partiel, localisé, des scénarios qui ne sont pas seulement à l'étude, mais aboutis, affirme Olivier Véran. Par ailleurs, le ministre fera demain des annonces transformantes pour le monde de la santé à l'occasion de la clôture du Ségur sur l'organisation et la gouvernance du système de soins.
Merci beaucoup Margot Dalpierre. Des annonces transformantes, décidément le coronavirus a le don d'enrichir notre vocabulaire. Je vous le disais, le masque devient donc obligatoire dans tous les lieux publics clos, dans les banques, où il ne vous est pas conseillé d'ailleurs de faire des plaisanteries du genre « ceci est un hold-up », cela pourrait être mal interprété, dans les administrations et bien sûr les supermarchés. Illustration dans un hypermarché de Tournord avec le reportage d'Yvan Planteil.
Protégez-vous, protégez-nous. Voilà ce qu'on peut lire à l'entrée du centre commercial de Tournord. Des affiches de plus de 2 mètres de haut. Le masque obligatoire, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les employés, comme Sandrine, hôtesse de caisse, et les clients.
On était tous dans l'attente du port de masque obligatoire dans les grandes surfaces. Je pense que là, ça va rassurer les hôtesses, autant aussi les clients, parce que y a des clients qui se disaient « Mais pourquoi eux, ils n'ont pas de masque et nous, on en a quoi ?»
Ce n'est plus à Sandrine, ni à Julien, par exemple, de faire la police. D'autant que selon ce manager de l'épicerie et du rayon bio, ça n'était pas facile de se faire entendre.
On n'a pas cette légitimité qu'un soignant peut avoir. Certains ne respectent pas forcément les distances de sécurité. Au moins, on n'a plus besoin de leur dire, c'est un peu gênant, mais c'est obligatoire de leur dire de se décaler, de mettre une certaine distance.
Deuxième source de tranquillité pour le personnel, le directeur du site, Lionel Perron, met un agent de sécurité en plus pour cette semaine.
Sur l'entrée principale du magasin, ça va être relativement facile de gérer. Sur la deuxième entrée du magasin, qui est une entrée en libre-service, ça sera un petit peu plus compliqué, donc il y aura une personne en plus sur cette semaine-là.
Il assure que des masques seront vendus à l'entrée. Comme ça, ils n'auront pas d'excuses, explique-t-il. Ils coûteront 50 centimes l'unité.
Le reportage à tour d'Yvan Plantet et France Bleu Touraine. Les vacances scolaires cette année ne se déroulent pas vraiment dans la plus grande sérénité pour les directeurs d'école et autres chefs d'établissement du secondaire. L'hypothèse d'une résurgence de la Covid doit être prise en compte, ce qui signifie réactivation des mesures de prévention déclenchées à partir du 11 mai dernier. Ça suppose aussi, Hakim Kasmi, une multitude de procédures à prévoir.
Oui, Ezekiel, ainsi pour le ministère de l'Éducation nationale, la priorité pour la rentrée reste l'accueil de tous les élèves en présentiel. Malgré tout, deux scénarios ont été retenus. En cas de circulation active mais sans fermeture d'établissement, les cours en présentiel seront privilégiés avec tout de même un protocole sanitaire à respecter comme par exemple le port du masque obligatoire ou un espace d'au moins 1 mètre entre chaque table avec également la possibilité de suivre des cours à distance, notamment avec la plateforme numérique du CNED, Ma classe à la maison, tout comme l'émission de France 4 dédiée à l'école qui serait réactivée. Les élèves déconnectés à cause de la fracture numérique pourront quant à eux bénéficier localement d'aides en matériel mais aussi en fonds sociaux. Dans un deuxième temps, cette fois, si les écoles devaient toutes fermées sur l'ensemble du territoire, l'intégralité de l'enseignement sera assurée à distance, ce qui serait un véritable défi, car les risques sont nombreux, comme par exemple le décrochage scolaire. On se souvient que juste après le confinement, 4% des effectifs d'élèves avaient littéralement décroché, disparu des radars de l'éducation nationale. Enfin, de leur côté, les syndicats indiquent que même si ce plan a au moins le mérite d'exister, des questions restent posées, notamment sur les moyens alloués aux enseignants pour continuer à faire cours à distance, avec notamment la question des moyens numériques. Les enseignants qui dénoncent également le fait que ces mesures arrivent un peu tardivement en plein pendant les vacances scolaires.
Un vrai casse-tête. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Hakim Kasmi. L'État va bien prendre en charge la restauration de la cathédrale de Nantes. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a confirmé ce matin. L'incendie de samedi a détruit, vous le savez, l'orgue du XVIIe siècle, des vitraux dont certains datent du XVIe. Des experts du laboratoire de police scientifique et technique continuent leur travail de fourmi en ce moment pour tenter de déterminer l'origine du sinistre. Hier soir, l'homme de 39 ans, bénévole du diocèse qui était en garde à vue, a été finalement remis en liberté. Les enquêteurs ont pu éclaircir certaines incohérences de son emploi du temps après la fermeture de la cathédrale. Aucun élément finalement, n'a été retenu pour justifier qu'il soit maintenu en détention. Julie Munch, vous avez pu rencontrer tard cette nuit l'avocat de l'ex-suspect.
C'est les traits tirés que maître Quentin Chabert est sorti du commissariat au beau milieu de la nuit. Les heures d'interrogatoire ont été longues et éprouvantes pour lui comme pour son client.
Surtout fatigué. Il ne sait pas trop dans quoi il est, dans quoi il va être et dans quoi il sera.
L'avocat décrit donc un homme profondément dérouté par ce qui lui est arrivé. Le bénévole était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir, puis il s'est retrouvé au milieu d'un tourbillon médiatique et judiciaire. Pourtant, ça ne fait pas de lui un suspect, selon son avocat. Rien ne justifie que sa garde à vue soit maintenue.
Vous avez constaté qu'on a eu une audition qui a duré très longtemps pour aller dans le détail. Et en l'état actuel de la procédure, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir le garder plus longtemps. Enfin, une enquête classique désormais.
Le bénévole va donc pouvoir retrouver une vie normale ou quasi normale. Maître Quentin Chabert précise toutefois qu'il est envisageable qu'il soit réentendu pour les besoins de l'enquête.
Je l'ai mis une chef France Bleu Loire-Océan. Plus de 27 000 euros par ailleurs ont déjà été collectés par la Fondation du patrimoine après le lancement d'une souscription pour reconstruire le grand orgue de la cathédrale de Nantes. Delphine Ernotte se succédera-t-elle à elle-même à la tête de France Télévisions ? La réponse devrait intervenir le 24 juillet. En tout cas, les 8 candidats à la présidence du groupe télévisuel sont auditionnés par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 4 candidats aujourd'hui, les autres demain mardi. À l'étranger, en Égypte, les cas de coronavirus se multiplient en prison. Au moins 14 détenus seraient morts de la maladie. C'est ce que révèle ce matin un rapport de l'organisation Human Rights Watch. Les prisons égyptiennes sont réputées pour leurs violations répétées des droits humains. La situation pourrait être encore plus grave. C'est ce que redoutent en Égypte les familles de prisonniers et les ONG de défense des droits de l'homme. En ligne du Caire, Martin Roux.
Une propagation du virus dans des prisons surpeuplées, insalubres, la catastrophe redoutée par les familles de détenus est en train de se produire. Les 14 décès que rapporte Human Rights Watch sont survenus dans une dizaine de prisons. Les détenus y sont coupés du monde depuis plus de 4 mois et l'interruption des visites début mars. Pour Aïda Saïf El-Daoula, à la tête du centre Al-Nadim pour la réhabilitation des victimes de torture, les autorités égyptiennes sont directement responsables.
Cela aurait pu être évité en leur fournissant des soins médicaux. Ce n'étaient pas des personnes âgées, l'un d'eux avait la soixantaine, mais les autres n'étaient pas vieux. Les malades devraient être emmenés à l'hôpital, on ne devrait pas les laisser mourir dans leur prison. Mais ce problème est bien plus ancien que le coronavirus.
Le centre Al-Nadim et 3 autres organisations ont lancé jeudi une pétition en ligne. Elles réclament l'application des mesures de protection en prison et dénoncent des conditions inhumaines de détention.
La surpopulation, l'absence d'eau propre et de ventilation. Depuis l'interruption des visites en mars, ils ne sont jamais sortis de leurs cellules. Et certains détenus ne sont pas sortis à l'air libre depuis le début de leur détention.
Plus de 60 000 prisonniers politiques sont détenus dans les prisons égyptiennes. Ces organisations réclament leur libération immédiate.
La correspondance en Égypte signée Martin Roux. Une première la nuit dernière dans l'histoire de la conquête spatiale avec le lancement réussi de la sonde émirati Al-Amal, espoir en français. Direction l'orbite de la planète Mars pour un voyage de 687 jours. C'est la toute première mission interplanétaire menée par un pays arabe dans le contexte d'une course aux étoiles direction Mars sur laquelle s'alignent également cet été les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, Zoé Pallier, les Émirats arabes unis jouent la carte de puissance émergente dans la cour des grands.
Choix de date très symbolique, la sonde HOPE doit arriver dans l'orbite de Mars en février 2021, juste à temps pour les 50 ans de la création des Émirats Arabes Unis. Avec cette mission, le pays renforce son image d'une nation jeune et en plein développement. Omran Sharaf en est le chef de projet.
Les Émirats ont voulu envoyer un message fort à la jeunesse arabe. Des universités ont ouvert des filières scientifiques grâce à la mission. C'est pour ça qu'elle s'appelle Espoir, pour donner de l'espoir à notre jeunesse.
Le gouvernement promet des embauches à tous les futurs scientifiques.
Il y a un enjeu économique qui est évident.
Camille Lons est chercheuse à l'Institut international des études stratégiques.
Les Émirats font des efforts en termes de diversification de leur économie, pour ne plus reposer que sur le pétrole. Et c'est une façon aussi de coopérer avec des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie. Et sur le long terme, c'est vrai que ça peut avoir aussi une utilité potentiellement militaire.
Ce n'est que le premier voyage des Émirats vers Mars. Le pays a une ambition plus grande, permettre aux humains d'habiter sur la planète rouge d'ici 100 ans.
Et une dernière précision, la sonde Al-Amal va mettre 7 mois pour parcourir les 493 millions de kilomètres qui nous séparent de la planète Mars. La tendance météo pour cet après-midi, le ciel qui était plutôt chargé ce matin dans le nord va se dégager dans les heures qui viennent. Le soleil brille dans le reste du pays. Des averses orageuses sont à craindre toutefois sur les Pyrénées. Les températures maximales seront proches de 19 à 20 degrés sur le littoral de la Manche, entre 23 et 30 degrés sur la moitié nord du pays, entre 30 et 34 sur le sud, avec même des pointes à 35 degrés en vallée du Rhône et dans la Genève. Excellente fin de journée, l'écoute de France Culture.